Auditeurs, auditrices, bonjour. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours et une fois n'est pas coutume, je souhaitais partager avec vous un de mes questionnements existentiels. Car arrive un jour ce moment critique où l'on se demande si on n'a pas déjà beaucoup trop donné son avis, sans même que personne nous le demande, peut-être même sans connaître le sujet, ou en toute mauvaise foi, ou en mentant, pour se protéger ou pour avoir la paix. Jusque-là, rien d'exotique, me direz-vous, il faut bien que les humains s'occupent. Sans parler de tous ces questionnaires de satisfaction où l'appréciation ne souffre aucune nuance. C'est bien ou c'est mal, le bonhomme rouge ou le bonhomme vert, à la rigueur le bonhomme orange. Et soudain le doute, qui a vraiment envie de connaître mon avis à moi personnellement sur tel ou tel sujet ? Ai-je donc un savoir ou une sagesse particulier qui me permette d'émettre des avis ? Veut-on vraiment mon avis de personne lambda ou que je vienne simplement confirmer ou flatter ? Est-ce pour me donner une importance toute rhétorique et l'illusion de décider ? La couleur du papier peint du couloir sud-est, les manies de Thérèse de la Comta, le conflit au Proche-Orient, Crocs ou Birkenstock, la Vendée ou la Bretagne, quel taux d'imposition ? Peut-on moralement être de droite ? Comment booster mon CV ? Orange et rose ou carmin et orange ? Une vieille fille est-elle une menace dans un cercle d'amis en couple ? Ne pas être propriétaire, est-ce un échec ? Le bio est-il trop cher ? Comment tu le trouves, Maurice ? Est-ce moralement acceptable de vouloir s'élever socialement ? Les enfants de la voisine sont mal élevés, vous ne trouvez pas ? Peux-tu lire mon mémoire ? Je voudrais la vie de gens qui n'y connaissent rien. Son ton était un peu condescendant, tu ne trouves pas ? Peut-on remplacer le beurre par des courgettes ? Êtes-vous satisfait de la réponse apportée ? Êtes-vous un humain ? La réponse la plus probable est, à mon avis, pour toutes ces questions d'ailleurs. Je ne sais pas. J'émets l'hypothèse que, la gênant, cette réponse puisse devenir... Je m'en fous. Et que cela soit même joyeux. Sûrement pourrait-on aussi trouver des cas de « je me prononcerai après signature du devis pour une prestation de conseil ». Mais le plus déroutant reste probablement « pourquoi me poses-tu cette question ?»
Tu penses quoi toi ? Tu dis rien. Approchez-moi, je veux bien m'arrêter. Si tu veux danser, moi je veux bien.
rien. Mais toi, tu dis rien. Tu oublies, tu penses à rien. Tu souris, mais qu'est-ce qu'on est bien. On oublie, on traverse et l'eau nous bat ses fous sans lieu sombre. Et toi, tu penses quoi? Tu dis rien.
Pense quoi, tu dis rien. C'était un morceau de Louise Attaque. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Alors, auditeurs, auditrices, peut-être le savez-vous. En 2021, l'équipe Biomap INRAE de la faculté de pharmacie de l'Université de Tours, co-dirigée par le professeur Isabelle Dimier-Poisson, a répondu à l'appel à projet Recherche Action pour la Covid-19, projet lancé par l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, et leur projet portant sur le développement d'un vaccin nasal anti-SARS-CoV-2 a été sélectionné pour financement. Fondée en 2022, la start-up Lovaltech se consacre au développement industriel d'une nouvelle génération de vaccins protéiques administrés par voie nasale. La start-up a été créée pour poursuivre le projet de recherche Biomap INRAE. Lovaltech annonce une levée de fonds de 6,8 millions d'euros. Ce financement permettra d'accélérer les essais cliniques de son vaccin nasal contre la Covid-19. Les investisseurs principaux sont Davinci Lab, incubateur deep tech basé en Touraine, et le fonds d'amorçage de la région Centre-Val-de-Loire. Pour en savoir plus sur ce vaccin et sur les essais cliniques à venir, nous rencontrons le professeur Isabelle Dimier-Poisson, responsable de l'équipe Biomap, directrice adjointe de l'unité mixte de recherche Université INRAE et responsable du master infectiologie, immunologie, vaccinologie et biomédicaments à l'Université de Tours.
Merci beaucoup à vous de m'accorder un peu de temps pour répondre à quelques questions. Quels étaient les plus de ce vaccin en spray? Peut-être que vous voudriez nous en dire plus.
Oui, ben volontiers, puis merci de porter un intérêt sur notre vaccin. Alors, c'est un vaccin de deuxième génération par rapport aux vaccins qui sont actuellement commercialisés et utilisés. Et il revendique plusieurs plus-values. Bien sûr, comme les vaccins actuels, il protège des formes symptomatiques, des formes graves de la maladie, ça c'est un fait. Mais en termes de plus-value, il va revendiquer déjà le fait que il sera en capacité d'arrêter la transmission interhumaine, la contagiosité. Et ça, c'est dû au fait qu'il est administré par voie nasale. Et en étant administré par voie nasale, il induit une réponse immunitaire au niveau du nez. Et donc, on bloque tout de suite le virus. Et pour expliquer, je dis souvent, moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens qui sont vaccinés, qui ont été infectés depuis et qui, sans être gravement malades, parce qu'ils sont protégés par le vaccin, néanmoins ont eu des symptômes. Ils ont eu de la toux, des éternuements, et ce qui montre bien que les vaccins actuels ne protègent pas de la contagiosité, de la transmission. Et on sait aussi que c'est comme ça que le virus circule et mute. Et donc nous, en vaccinant par voie nasale, on l'arrête tout de suite. La deuxième plus-value, c'est sa composition. Tous les vaccins aujourd'hui qui sont autorisés, commercialisés, sont à base, alors soit de l'ARN, soit des adénovirus, enfin, toutes ces plateformes-là vont faire en sorte que notre système immunitaire va rencontrer une protéine qui s'appelle la spike. Et cette protéine-là, elle mute beaucoup avec les variants, et c'est ce qui fait qu'on est obligé, eh bien, à chaque fois de modifier le vaccin et de le réactualiser en fonction des variants. La deuxième plus-value de notre vaccin, en plus d'arrêter la contagiosité, c'est le fait qu'il est composé de la spike, mais il est composé aussi d'une autre protéine qui, elle, reste intègre, quels que soient les variants jusqu'à ce jour, et c'est ce qui va donner un caractère plus universel. Voilà. Et la troisième plus-value, on peut dire aussi, c'est sa conservation. Bien évidemment, il se conserve à moins 20 comme les vaccins ARN, mais surtout, il a la capacité d'être conservé à 4 degrés, et à plus 25 degrés pendant des mois et des mois.
Alors, pardon, hein, j'insiste un peu lourdement sur tous ces plus que vous avez mentionnés, professeur Dimier Poisson, sur l'idée de la contagiosité, voilà, qui s'arrête avec ce format-là. Peut-être qu'on peut rappeler aux auditeurs ce qu'est un porteur sain et pourquoi, dans le cadre du Covid, justement, c'est tout à fait pertinent.
Voilà, alors un porteur sain, c'est une personne qui est infectée, mais qui ne va pas développer de signes cliniques, de symptômes. Alors, ça peut se trouver au niveau de la COVID-19. Vous pouvez avoir des personnes qui sont infectées et qui ne vont pas développer de symptômes, ou des symptômes, on va dire, relativement modérés, comme de la toux, comme des éternuements, des choses comme ça. Mais bien évidemment, quand je parle de ces personnes-là, je parle de personnes qui sont déjà vaccinées, hein. La vaccination est primordiale, bien évidemment, pour être protégée vis-à-vis de la COVID-19.
Et alors, il me semble aussi que ce vaccin ne nécessite pas d'adjuvant.
C'est exact, il ne nécessite pas d'adjuvant. C'est donc un vaccin qui est non adjuvanté. C'est un vaccin qui est à base de protéines. Voilà, c'est ce qu'on appelle les vaccins sous-unitaires, à base de protéines. Et il est juste associé à ce qu'on appelle un excipient. Donc, c'est une molécule qui est biodégradable, biocompatible, bioéliminable, mais qui a comme grande capacité de maintenir un certain temps le vaccin dans le nez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nez, nous avons deux barrières physiologiques qui sont les cils vibratiles et le mucus, qui sont là pour nous aider à éliminer très rapidement les particules aéroportées. Et quand on met une protéine vaccinale, elle est considérée comme une molécule aéroportée et elle est éliminée. Et nous, on l'associe avec ce muco-excipient qui a des très fortes capacités d'adhésion sur le mucus. Et au lieu que la protéine soit éliminée tout de suite, elle persiste un certain temps dans la cavité nasale, suffisamment pour passer le message aux cellules immunitaires.
Et alors, sans adjuvant, est-ce qu'on peut dire que c'est, entre guillemets, un argument de vente pour les personnes qui sont méfiantes vis-à-vis des vaccins, puisqu'il y a eu... des accusations envers ces adjuvants, je pense au sel d'aluminium qui était accusé de provoquer des cancers.
Alors, bien sûr, ce sont des questions qu'un certain nombre de la population se pose, avec des personnes qui s'interrogent sur effectivement l'adjonction de ces adjuvants et potentiellement leur effet. Aujourd'hui, effectivement, on a en plus, parce que je pense que le critère primaire, c'est la protection. Voilà. Mais en plus de la protection, voilà, on revendique ce vaccin qui est sans adjuvant, qui peut effectivement rassurer une certaine fraction de la population, et puis aussi un vaccin qui est sans aiguille, qui va également rassurer peut-être des personnes qui sont plus à s'interroger sur un vaccin avec une seringue et une aiguille. Donc oui, effectivement, en plus de ses grandes capacités protectrices, il peut effectivement, je l'espère, rallier un certain nombre de personnes qui peuvent s'interroger sur la sécurité, la facilité d'utilisation du vaccin.
Alors, je crois que ce vaccin est aussi possiblement auto-administrable. Du coup, potentiellement, c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui habiteraient dans des déserts médicaux, mais est-ce que vous risquez pas de fâcher un peu les paramédicaux comme les infirmiers ou les pharmaciens ?
Alors, il pourrait, et je reprends votre terme, il pourrait être auto-administrable dans la mesure où c'est une grande facilité d'utilisation. Voilà. Je reviens souvent à les personnes qui pensent au spray nasal, pensent que ce sont des systèmes comme les sprays pour de l'eau physiologique, etc. Non, hein, c'est un système, un dispositif médical. Je pense que vous avez tous utilisé un spray nasal et en fonction de la pression que vos doigts portent sur les ailettes, vous allez vous mettre une quantité qui peut varier entre chaque pulvérisation. Ici, on a ce qu'on appelle un dispositif médical et il faut que le volume qui va être distribué dans chaque narine soit toujours le même. Effectivement, c'est un vaccin qui, compte tenu de l'utilité très aisée de ce dispositif, pourrait se faire en auto-administration. Néanmoins, j'insiste, la vaccination, c'est un geste médical. Même si le geste en lui-même est facile, il faut quand même que quand vous êtes vacciné, le professionnel de santé acte de cette vaccination. Il faut qu'il puisse le déposer dans votre carnet de santé, par exemple. Donc, ce sont des réflexions que l'on a. Il peut s'ouvrir en termes de facilité à un certain nombre de professionnels de santé, médecins, infirmières, pharmaciens, etc. Mais j'insiste sur le fait que la vaccination reste un geste médical qui doit être validé et approuvé par un professionnel de santé.
Alors, pour que ce futur vaccin soit testé sur l'humain, il y a eu avant des tests précliniques. Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien comment fonctionnent les tests de cet ordre-là, les tests dans la recherche médicale, est-ce que vous voudriez expliquer quelle est la différence entre un test, enfin un essai préclinique et un essai clinique ?
Bien, tout simplement, les essais cliniques, ce sont des essais qui vont se faire dans le cadre d'une recherche, dans un laboratoire de recherche, et qui vont faire appel à des modèles cellulaires ou des modèles animaux qui vont permettre de valider l'efficacité du vaccin. Et les essais cliniques, eh bien là, on passe à l'échelle humaine. Et donc, ce sont des essais qui sont réalisés en population humaine sur des volontaires qui viennent tester l'innocuité et l'efficacité du vaccin.
Alors, dans le cadre de ce vaccin nasal, quels étaient les critères de jugement qui ont été retenus pour juger de la pertinence clinique du vaccin avant le passage à l'humain ?
Alors, dans un premier temps, une fois que nous avions, identifié et développé le vaccin, il fallait qu'on passe en trois étapes. La première, c'était est-ce que notre vaccin, lorsqu'il est administré, eh bien, va induire les réponses immunitaires que l'on sait comme étant de bon augure pour induire une protection. Et c'est seulement une fois qu'on a validé cette première étape, oui, nous avons obtenu des réponses immunitaires, des anticorps, des lymphocytes, eh bien, dans un second temps, on passe à ce qu'on appelle eh bien, une étape où là, on va valider la protection. Et donc, c'est là où on va réaliser des infections et on va bien voir si on protège en termes de survie, quels que soient les variants, si on protège en termes d'arrêt de la transmission, de l'arrêt de la contagiosité. Et une fois que toutes ces étapes sont réalisées et qu'on acte à chaque fois, oui, c'est un vaccin qui induit les réponses immunitaires souhaitées, oui, il protège des formes graves, oui, il protège des symptômes comme la détresse respiratoire, oui, il arrête la transmission, oui, il arrête la contagiosité, et ce, quels que soient les variants qu'on peut tester, alors c'est à ce moment-là qu'on se dit, on a un vaccin qui peut apporter des plus-values par rapport à ceux actuellement, et ça serait bien d'aller plus loin.
Donc ça veut dire que vous testez en parallèle les autres vaccins pour avoir quelque chose pour comparer ?
Alors, soit on compare en parallèle, ça se fait, soit par exemple, on va pouvoir s'appuyer sur de la veille bibliographique. Hein, aujourd'hui, on a un certain nombre de reculs avec des articles scientifiques où, par exemple, on sait que les vaccins administrés par voie intrasystémique, donc les vaccins à ARN par voie intramusculaire, n'induisent pas de réponse immunitaire au niveau de la cavité nasale. Ça, c'est par exemple publié, ça a été publié encore récemment, et on sait que ces vaccins-là n'induisent rien dans la cavité nasale, et on sait que notre vaccin induit eh bien, les effecteurs nécessaires pour arrêter le virus dès qu'il pénètre au niveau du nez.
Alors comment on peut être sûr, quand on teste un vaccin ou un médicament, que c'est bien le vaccin ou le médicament qui fait effet et que ce n'est pas une guérison qui est due justement à l'histoire naturelle de la maladie ?
Alors, c'est ce qu'on appelle les contrôles. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand vous, par exemple, en modèle préclinique, quand vous, identifiez l'efficacité d'un vaccin ou d'un traitement, comme vous le dites, bien évidemment, il faut être extrêmement rigoureux scientifiquement et avoir, par exemple, des lots qui ne sont, eux, ni traités ni infectés. Et normalement, dans ces lots-là, par exemple, vous devez avoir 100% de mortalité. C'est votre contrôle interne, ce qui va vraiment asseoir la science que vous avez menée, eh bien, elle est carrée. Et de l'autre côté, vous allez avoir les lots qui, eux, vont être vaccinés ou si c'est un médicament traité et puis ensuite infecté. Donc, il y a vraiment des règles qui sont extrêmement importantes à suivre pour effectivement pouvoir asseoir les conclusions en disant il n'y a pas un biais dans l'expérimentation, on est sûr que l'on passe normalement de 100% de mortalité à 100% de survie, par exemple.
Alors juste une précision, quand on parle d'un lot, ça veut dire qu'on est sur le modèle animal et qu'on détermine tant de sujets, en fait, d'animaux pour chaque...
Exactement, et tout ça, hein, en termes d'efficacité, ce n'est pas se dire bah, je crois que ça a marché parce que j'ai tant d'animaux, etc. Il faut aussi s'asseoir sur des tests statistiques qui vont prouver la relevance, et c'est ce qu'on appelle, on a une significativité dans nos résultats. Donc ça, c'est aussi un des études, on va dire, mathématiques, statistiques, qui vont définir définitivement le caractère de protection du vaccin ou du traitement, par exemple.
Donc là, pour en revenir à ce vaccin nasal, quels seront les critères d'évaluation retenus pour ces nouveaux tests cliniques, puisque vous allez lancer de nouveaux tests? Du coup, quels seront ces critères et quels comparateurs allez-vous choisir?
Oui, alors, c'est un test qui va, ce qu'on appelle, va postuler que notre vaccin est supérieur pour l'induction d'une réponse immunitaire au niveau de la muqueuse nasale. Donc en fait, l'essai clinique va être défini de telle sorte que l'on va faire rentrer une population qui est vaccinée avec le vaccin Pfizer. Et donc la moitié de la population recevra un rappel avec ce vaccin ARN en intramusculaire. Et l'autre population recevra eh bien, le boost du vaccin nasal Lovaltech. Et on devra démontrer que seuls les volontaires qui ont reçu eh bien, le boost par voie intranasale du vaccin Lovaltech sont en capacité d'induire des anticorps neutralisants dans le nez, notamment, à la différence de l'autre groupe de volontaires.
Alors, comment vous avez défini le nombre de patients ou de personnes, en tout cas, à inclure dans cette étude, et pourquoi l'étude est multisite?
Alors, la première question, c'est à nouveau, hein, tout est... posé. On a un consortium, on travaille avec voilà, des immunologistes, des infectiologues, on travaille avec des gens qui font de la pharmacovigilance, on travaille avec des statisticiens. Et en ce qui concerne votre question, le nombre de patients, il faut à nouveau qu'il y ait une relevance statistique. Et donc, c'est un travail en amont qui est fait avec les biostatisticiens qui vont nous dire, eh bien, il faut avoir tant de volontaires, on va dire, par bras, pour qu'il y ait à nouveau une significativité dans les réponses que l'on va étudier. Ensuite, pour la question qui était pourquoi votre essai clinique se porte sur plusieurs hôpitaux, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle un essai clinique multicentrique. Voilà, il va normalement eh bien, s'appuyer sur 5 hôpitaux, dont 2 qui sont investigateurs, qui sont le CHRU de Tours et la PHP de Cochin à Paris. Pourquoi 5? Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre eh bien, d'améliorer, d'optimiser eh bien, l'obtention des résultats. Vous comprenez bien que dans un hôpital, s'il faut faire rentrer, on va dire, 200 patients, ça va prendre plus de temps que dans 5 hôpitaux où on va potentiellement en faire rentrer 40 en même temps. Donc, c'est la voilà, façon de dire, voilà, on a plusieurs hôpitaux qui vont travailler de concert, qui vont recruter chacun quelques dizaines de volontaires et on va travailler en même temps. Et bien sûr que ça va être un gain de temps.
C'est un gain de temps, mais est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un gain, disons, de fiabilité, de dire, bah tiens, sur les 5 sites, on trouve les mêmes résultats?
Alors, oui, mais si on reste, si je vous réponds précisément, les échantillons de tel hôpital n'iront pas forcément dans tel autre hôpital. Donc, effectivement, ce qu'on veut, c'est une logique et quelque chose qui se tient entre les hôpitaux. Et effectivement, il y aura des réunions internes qui se feront régulièrement pour bien démontrer que nos contrôles négatifs, nos contrôles positifs restent positifs et qu'on puisse ensuite interpréter nos résultats. Donc oui, c'est vraiment important qu'on travaille de concert ensemble et qu'on puisse comparer les résultats qu'on obtiendra chacun dans les différents hôpitaux.
Et alors, par curiosité, il y aura combien de patients dans cette étude?
Alors, en phase 1, il y aura 36 patients qui vont être découpés en 3 groupes de 12 patients. Voilà. Et en phase 2, il y aura 202 patients qui seront découpés en 2 fois 101 volontaires.
Et donc, ces volontaires, est-ce qu'il y avait des critères particuliers pour les sélectionner, outre le fait d'être déjà vaccinés?
Alors, les critères, ben, ce seront des personnes qui seront en bonne santé. C'est des critères qui sont classiques, hein, pour les essais cliniques. Donc, il faut qu'on ait des personnes qui soient en bonne santé. L'essai clinique sera ouvert à partir de 18 ans. Et ce seront des personnes, donc, voilà, vaccinées, qui viendront recevoir, comme je disais, une injection intramusculaire du vaccin actuellement utilisé ou, pour l'autre groupe, une administration intranasale du vaccin Lovaltech.
Donc des personnes qui viennent de leur plein gré, évidemment. Et est-ce que cette participation est rémunérée?
Oui, c'est rémunéré. Donc ça aussi, hein, ça s'applique sur des règles et des lois réglementaires. Donc effectivement, il y a une rémunération qui est associée à la participation de l'essai clinique. En même temps, et c'est quelque chose qui est important pour moi, nous avons mené une étude transversale là, qui est ouverte ces derniers mois, qui est également de fait rémunérée. Mais en discutant avec les personnes qui rejoignent l'essai clinique, je suis convaincue que ce n'est pas la balance financière qui porte. On a, voilà, en discutant, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont envie de participer au développement de ce vaccin, parce qu'ils le disent eux-mêmes, c'est un vaccin en qui on a toute confiance, un vaccin 100% français, qui n'a pas d'adjuvant, pas d'aiguille, qui arrête la contagiosité, qui protège contre les variants. Donc je pense que l'argent, forcément, a une importance, mais ce n'est pas ce qui est en première intention, en tout cas.
Alors, dans cette émission La Méridienne, on a déjà entendu parler aussi de l'étude MuCovid. Donc, est-ce que vous voudriez en dire quelque chose? Est-ce que c'est une étude annexe? Parce qu'il était aussi question du vaccin Lovaltech. Qu'est-ce que vous aimeriez préciser?
Oui, c'est une étude. Alors, c'est une étude qui devait se mener en amont, et je vais vous expliquer rapidement. En fait, là, comme je vous l'ai expliqué, le but de l'essai clinique, c'est de démontrer que les volontaires qui ont reçu le vaccin Lovaltech en intranasal développent notamment des anticorps dans leur nez qui sont capables de neutraliser le virus, ce qu'on ne va pas retrouver chez les personnes qui sont vaccinées en intramusculaire avec le vaccin actuel. Il faut donc être en capacité d'étudier cette réponse immunitaire dans le nez. Or, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Voilà. Et donc, il faut que l'hôpital, les hôpitaux qui vont faire les essais cliniques, aient qualifié ce test pour pouvoir ensuite analyser. Et donc, on a fait une étude en amont pour faire rentrer plus de 200 personnes. Là, c'est hors contexte vaccin. C'était des personnes qui étaient hors contexte Covid, mais également des personnes, surtout là en décembre, janvier, février, il y en a eu un peu plus, des personnes qui faisaient un Covid-19. Et donc, on a récupéré leur salive et leur sécrétion nasale et on a mis en place les tests qui nous permettent eh bien, de doser ces anticorps et de mesurer leur activité neutralisante. Et une fois qu'on aura bien mis en place ces tests, eh bien, ceux-ci seront validés, qualifiés, et donc on pourra faire l'essai clinique.
Merci. Et alors, sur ces essais cliniques, est-ce qu'il y a un critère de non-pertinence pour un vaccin ou un médicament, d'ailleurs? Est-ce que les chercheurs se disent, on considère que ce n'est pas pertinent cliniquement s'il y a des décès, si...
Alors, bien sûr, je ne peux jamais être sûre à 100%, mais déjà compte tenu de la composition du vaccin qui est fait de protéines et de sucre, et puis vous savez, hein, y a une étape qui s'appelle avant la toxicité réglementaire. C'est-à-dire que le vaccin ne peut pas rentrer en essai clinique si sa toxicité n'a pas été étudiée et qu'ensuite on ait un rapport d'activité qui acte de la totale innocuité du vaccin. Ce rapport, on l'a reçu. De toute façon, c'est ce qu'on a toujours observé chez nous en modèle préclinique. Donc, on est extrêmement confiant. Donc, aujourd'hui, c'est une question qui se pose. De fait, hein, la phase 1, elle est pour ça, pour mesurer, pour confirmer la totale innocuité du vaccin. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'est en totale confiance que j'imagine cette phase 1.
Et alors justement, à votre avis, quel est le rôle à jouer des médias dans l'information du grand public sur ces essais cliniques et sur la santé plus généralement, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de fake news, disons, pendant la pandémie de Covid-19?
Oui, alors moi je suis professeur des universités, j'enseigne l'immunité anti-infectieuse, j'enseigne les vaccins et j'ai même une unité d'enseignement qui s'appelle « Vaccin et polémique ». Donc, je sais avec mes étudiants combien il faut à ce moment-là eh bien, faire attention à tout ce qui peut circuler et combien aujourd'hui les fake news peuvent très rapidement eh bien, cacher des choses qui sont sûres. Je pense que tout simplement, il faut rester ouvert au dialogue, il faut expliquer. Voilà, on a développé un vaccin à base de protéines. Ce sont des résultats scientifiques qui ont été brevetés, qui vont être publiés. il n'y a pas d'adjuvant. L'efficacité vaccinale, elle a été prouvée. L'absence de toxicité totale a été également validée. On a un vaccin qui est porté par l'Université de Tours et INRAE. Bon, je pense qu'on peut, on peut être fiers. Moi, je suis fière de mon équipe et de tout ce qui a été fait depuis 2 ans et demi. Je pense qu'on peut se dire que voilà, il y a encore des choses à faire. J'insiste vraiment pour dire qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment un message que je passe et je redis à mes étudiants notamment. Aujourd'hui, c'est 14 millions de personnes qui meurent chaque année de maladies infectieuses. En France, comme un certain nombre de pays qui ont des hauts revenus, on a l'impression que les maladies infectieuses n'existent plus. Mais dans le monde, les maladies infectieuses restent dans les 3 premières causes de mortalité. Et il faut qu'on puisse continuer à apporter des vaccins qui sont sûrs, efficaces et qui ont... Voilà, cette plus-value d'arrêter la contagiosité, la transmission, d'être efficace, quels que soient les variants, les souches, les formes infectieuses. Donc la vaccination reste à ce jour une des plus belles découvertes de la médecine et il faut rassurer les gens en disant que si on est amené à leur démontrer combien ces vaccins ont été conçus, combien ils sont sécurisés, je pense qu'on peut, je l'espère, rassurer et rallier ces personnes au vaccin.
Alors, je reviens sur le muco-excipient qui a été développé dans le cadre de ce vaccin. Alors, est-ce qu'il est breveté? Est-ce qu'il pourrait être utilisé pour d'autres vaccins? Si oui, lesquels?
Bien sûr. Alors, ça ouvre pour l'Ovaltech, notamment, pour le laboratoire de recherche académique Biomap, qui est mon laboratoire, une plateforme, ensuite, de développement de vaccins. Donc, bien sûr, vous avez tout à fait compris la logique. C'est-à-dire que maintenant, on a ce muco-excipient. On a le système, le dispositif médical, à nous maintenant de travailler à nouveau pour concevoir, développer les protéines vaccinales d'autres maladies infectieuses, parce qu'elles sont nombreuses, celles encore qui sont mal ou non couvertes par la vaccination. Donc oui, on espère que ce vaccin est le premier d'une longue liste, on va dire.
Ça pourrait être un vaccin contre le paludisme?
Ça pourrait.
Oui. Et pourquoi cette maladie-là?
Pourquoi cette maladie-là? Pour plein de raisons. La première, c'est que vous savez que c'est une des maladies infectieuses les plus mortelles au monde. Aujourd'hui, avec 600, 700 000 personnes qui meurent chaque année, un lourd tribut payé par les enfants, parce que les tout-petits de moins de 5 ans sont fortement impactés par le paludisme. Voilà. Donc, il faut concevoir des vaccins. Pourquoi? Parce que c'est un parasite. Moi, j'ai commencé ma carrière et je l'ai poursuivi sur les parasites. Donc, revenir sur les parasites, c'était quelque chose qui fait sens. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion à long terme. C'est-à-dire que les parasites qu'on va retrouver aujourd'hui dans les zones l'Équateur, les zones tropicales, on va dire, seront peut-être des parasites qu'on va retrouver chez nous dans quelques dizaines d'années. On sait aujourd'hui combien le réchauffement climatique conduit au fait que certains vecteurs, certains moustiques vont pouvoir arriver, et c'est de fait, c'est déjà arrivé au niveau, par exemple, de l'Europe du Sud, etc. Donc c'est une réflexion qu'il faut mener au niveau mondial, et ça c'est important pour moi. Le paludisme qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, peut-être que dans 50 ou 100 ans, on le retrouvera en Europe du Sud et peut-être en France. Donc c'est une réflexion qu'il faut mener à l'échelle de la planète.
Et ce système, en fait, ce muco-excipient et ce spray, est-ce qu'il pourrait être utilisé pour d'autres molécules? Donc pas pour des vaccins, mais par exemple des traitements de psychiatrie, puisqu'il y a cette fameuse injection mensuelle pour certaines pathologies, donc qui peut être difficile pour les patients. Je pense aussi au traitement antibiotique pour les personnes âgées qui est en intramusculaire, donc qui parfois est très douloureux, ou alors encore en pédiatrie. Du coup, est-ce que là, ça peut être aussi des applications potentielles?
Bien sûr, bien sûr. Alors là, évidemment, il faut savoir que on est concentré sur ce vaccin, puis sur un ou deux autres qui sont en train de démarrer au sein de l'équipe. Ça va être très difficile de s'ouvrir aujourd'hui à toutes les indications, mais bien évidemment, c'est des réflexions que l'on a. Aujourd'hui, la voie nasale, elle est extrêmement pertinente, comme vous l'avez dit, pour d'autres traitements, pour d'autres populations, comme les enfants, les personnes plus âgées, etc. Donc oui, j'espère qu'aujourd'hui, ce vaccin nasal sera une porte pour permettre l'arrivée de nouveaux vaccins et de nouveaux traitements plus pertinents, safe, on va dire, et surtout très efficace, et pourquoi pas, effectivement, dans le cadre du traitement, avec une auto-administration, puisque là, on reviendra sur de la thérapie.
Et alors, justement, vous piquez ma curiosité en disant qu'il y a d'autres vaccins dans les tuyaux, donc celui du paludisme, on a bien compris, mais est-ce qu'il y en a un autre?
Je pense que déjà, c'est beaucoup. On est en réflexion, bien évidemment. Il y a d'autres vaccins. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en manque de vaccins pour un certain nombre de maladies infectieuses. Je pense également que malheureusement, vous avez vu que le rythme des pandémies s'accélère. Voilà. J'espère que notre génération peut-être ne la verra plus, mais malheureusement, je suis très inquiète pour les générations futures. On a ces pandémies qui arrivent et il faut qu'on puisse anticiper. Alors, une anticipation, bien sûr, parce que c'est le bouleversement climatique qui peut jouer son rôle, et à nous, effectivement, de l'enrayer le plus tôt possible, mais ça, c'est difficile. Et il nous faut préparer cette future pandémie. Il faut qu'on l'en ait, et vous l'avez vous-même relevé, des plateformes vaccinales qui vont pouvoir être efficaces le plus rapidement possible et répondre à des urgences quand elles arrivent comme ça. Donc oui, il faut qu'on puisse travailler pour permettre de traiter les maladies actuelles, les maladies infectieuses actuelles, et répondre de façon le plus précoce possible et le plus optimale possible aux futures maladies émergentes.
Et alors, cette urgence, comment vous la transcrivez auprès de vos étudiants, puisque vous êtes aussi responsable du master infectiologie, immunologie, vaccinologie et biomédicaments?
Alors, je pense qu'il faut, il faut toujours rester optimiste. Donc oui, il y a une urgence, il faut la préparer, il faut être finalement le plus compétitif pour pouvoir répondre le plus rapidement possible et surtout éviter ce qu'on a. Je pense qu'on a tous été marqués par ces dernières années. On souhaite à personne de revivre cette situation, et néanmoins, si elle devait arriver, eh bien anticiper pour pouvoir avoir une stratégie de vaccination qui, je dirais, englobe un peu tout. Une réflexion qui va protéger les personnes, mais qui va aujourd'hui, quand on se vaccine, on se protège. Moi, j'aime la réflexion de dire, aujourd'hui, quand je me vaccine, je me protège et je protège les autres. Et je pense que c'est en allant vers ce chemin-là, je me protège, je protège les autres. Du coup, j'arrête la circulation du pathogène, et donc on a quelque chose qui est plus facilement enrayable, et on a au niveau mondial peut-être une extension moins importante. C'est peut-être un espoir, mais je pense qu'en travaillant tous sur cette stratégie-là, on peut y arriver.
Et alors, des financements à une échelle européenne pour cette recherche ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, il faut savoir, le développement de vaccins coûte des sommes astronomiques. Vous voyez, l'Ovaltech a été créé il y a 2 ans. On a commencé le développement, on va dire, la fabrication, les premiers lots de développement GMP du vaccin il y a 2 ans. On raisonne en millions, voire en dizaines de millions. Donc, il faut pouvoir, on va dire, intéresser nos instances publiques, intéresser les instances privées, répondre à des appels à projets nationaux, internationaux, européens, pour pouvoir alimenter le développement du vaccin et lui permettre de voir le jour, on espère, d'ici 2-3 ans. Oui.
Est-ce qu'il y a un enjeu politique dans cette recherche ?
Enjeu politique, c'est une question compliquée. j'entends souvent, et c'est un retour en disant en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis régulièrement contactée. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que je n'ai pas un mail ou un message de personnes qui me disent: quand est-ce que votre vaccin il arrive, quand est-ce que notre petit français il arrive. Et derrière cette notion de petit français, j'entends un peu: quand est-ce que le vaccin français arrive. Donc, si c'est ce qu'on peut appeler connotation politique, pourquoi pas, avec cette notion d'un développement 100% français, et puis un intérêt, pas qu'un intérêt, un positionnement aussi fort de nos instances publiques qui sont là effectivement pour nous supporter et qui ont confiance au projet. Ça, c'est vrai que la marque de confiance qui nous est témoignée par les instances publiques est forte et traduit, je pense, ce que le vaccin peut apporter par la suite.
Merci, professeur Dimier-Poisson, d'avoir répondu à mes questions. Allez, quel sera votre mot de la fin ?
J'ai toujours dit qu'il fallait rester optimiste et que peut-être le meilleur vaccin à trouver, c'était le vaccin pour lutter contre le pessimisme et avancer tous ensemble pour essayer de se débarrasser le plus possible de ces maladies infectieuses qui sont trop présentes aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La grande chanteuse algérienne Cheikha Rimiti sur Radio Campus Tours, c'était Noir dans la Méridienne. Vous avez écouté avant cela un entretien avec le professeur Dimier Poisson, voilà, qui est directrice adjointe de l'unité mixte de recherche INRAE et responsable de l'équipe Biomap. Je vous propose à présent d'écouter une chronique de nos estimés bibliothécaires de la Bibliothèque municipale de Tours, puisque ce sont mes indics en termes de nouveautés, de livres, de CD, DVD et autres merveilles. Cette fois-ci, ils vous parlent de l'emprunt d'instruments de musique et de partitions, car oui, vous pouvez emprunter des instruments de musique à la Bibliothèque municipale de Tours et on me dit dans l'oreillette qu'il y a même maintenant un thérémine et un mélodica. La liste d'attente est un peu longue, paraît-il, mais enfin, ça vaut toujours le coup d'essayer.
Oui, bonjour, alors c'est la Bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais là, les yeux de Mélissa, que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Bonjour, c'est Guillaume, sur Radio Campus Tours. La bibliothèque municipale de Tours vous parle. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de certains services innovants que propose la bibliothèque, notamment autour de son nouveau prêt d'instruments de musique, instruments à cordes, percussions, synthétiseurs, arrangeurs, bref, tout pour débuter, tout pour s'exercer, tout pour découvrir. Nous avons également un fonds de partition de méthode, classé par genres musicaux, classé par instruments, donc il y a plusieurs portes d'entrée. Parmi ces partitions, il y en a une dont je voulais vous parler, qui est tout simplement une transcription pour piano, guitare et voix d'un des albums les plus mythiques de toute l'histoire du rock, qui est Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Je ne vais pas parler de l'album parce que tout le monde le connaît par cœur, c'est simplement parce que nous sommes à l'orée de 2024 et va fêter ses 50 ans. Et à ce titre, c'est quand même sympa de se poser toujours la question, au bout de 50 ans, est-ce qu'il a vieilli, est-ce qu'il a bien vieilli? Alors, il est marqué par son époque, ça c'est certain. Néanmoins, on peut constater qu'il n'a pas vraiment pris une ride, parce que là, il y a eu deux remasters de ce disque-là sur support CD, et force est de constater que ça n'a pas vraiment apporté grand-chose au son original, tellement à l'origine ce disque a été bien produit.
Une version du live également là, qui est disponible.
Exactement, oui.
Wembley en 74.
C'est une bonne façon de voir comment le groupe sonnait sur scène à l'époque. Et on se rend compte qu'ils étaient aussi parfaits qu'en studio, chaleur aussi de l'ambiance du live en plus. Bon, sachant que pour le Floyd en termes de musique et aussi de comportement scénique, c'est pas forcément la chaleur qui est c'est pas le côté chaleureux qui prédomine. Néanmoins, c'était une expérience en soi, et je pense que ce live-là le retranscrit bien.
On leur a fait beaucoup la critique de jouer en live comme il jouait en studio, et je trouve que la version 74 de Dark Side of the Moon contredit ça, parce que les intros sont complètement incroyables, la durée aussi des morceaux, la manière dont les morceaux sont amenés sur scène sont aussi je trouve extraordinaires.
Il y a cette aisance aussi à enchaîner les titres qui fait qu'on a pu dire qu'on avait l'impression d'écouter un 45 tours quand on mettait ce disque là. On la retrouve dans le live, sans que le groupe il se repose sur voilà les des bandes où donc ils avaient quand même la capacité de fournir cet effort soutenu d'un coup. Et puis il y a quand même aussi sur The Great Gig in the Sky, cette chanson extraordinaire où il y a une chanteuse qui a un alors qui je crois que sur le live c'est pas la chanteuse qui est sur l'album. Mais enfin bon, il y a des tas d'écrits qui ont été pondus là-dessus, donc vous trouverez les infos facilement. Néanmoins, voilà, elle a aussi une présence, une force et une sensualité qui font du bien dans la musique de Pink Floyd, mais qui s'insère très très bien dans ce contexte-là. Et enfin bon, bref. Donc du coup, on a quand même parlé de l'album, ce que je ne voulais pas faire, mais bon, ça c'est comment faire autrement. Donc voilà, donc nous on fête les 50 ans avec ce live empruntable en CD. On a évidemment le pressage français des années 80 dans notre collection patrimoniale. Et en plus de ça, donc on a cette partition et également un numéro spécial de Guitar Part, qui est un des magazines qu'on propose aussi depuis le début de cette année. Donc on en a un autre qui est acoustique. Mm-hmm. Voilà, et également pour le piano, parce que voilà, les amateurs de clavier sont pas en reste.
Donc ça fait trois partitions en fait, trois revues avec des partitions qui peuvent être jouées. Donc Pianiste Mag, Guitar Part et c'est Guitar Acoustique Mag, il me semble, qui est disponible. Et donc vous pouvez emprunter tous les derniers numéros, sachant que le dernier numéro arrivé restera consultable sur place.
Voilà, et il est consacré à Paul Persson.
Super, et bien voilà.
Mais il est pour tous, comme le disait Nietzsche, pour tous et pour personne.
Et puis bah Paul Persson, c'est quand même aussi le blues à la française avec des bons solos, des bons des bonnes accroches. Je sais que c'est un voilà, il est pas forcément aussi connu que Bertignac, etc., que Louis Bertignac de Téléphone, mais par contre il a une grosse cote chez les cadres quinca et plus, parce que voilà il a montré qu'un guitariste avec une magnifique gold top, donc une Gibson Les Paul, il était capable de la faire crier, de la faire chanter. C'est vraiment un super musicien avec un très très beau toucher. Donc c'est aussi un guitariste à découvrir pour ceux qui aiment le blues rock. Blues rock un peu sudiste.
Je l'attends en duo avec Jean-Jacques Milteau à l'écophone. Écophone, instrument rigolo dont on a découvert l'existence en allant chez nos partenaires All Music, qui est un des magasins de musique tourangeau. Qui fournissent les instruments qu'on propose au prêt. Et l'écophone, c'est un harmonica qui est à moitié inséré dans une espèce de pavillon comme un gobelet qu'on utilisait pour secouer les dés dans les jeux de société. Et c'est censé amplifier le son. Alors bon, c'est une connerie, mais c'est un instrument rigolo comme Honer savait les faire. Voilà, donc j'attends Paul Persson et Jean-Jacques Milteau en duo Gibson et Cophone sur un standard de blues.
C'est une super idée.
Voilà, au niveau des magasins, de Belly, ouais,
et au niveau des magasins de musique, voilà, on travaille avec All Music, mais on travaille aussi avec Thévenet Music et Cap Music. Et on les remercie aussi d'avoir adhéré au projet de prêt d'instruments de la bibliothèque.
Voilà.
On est ici dans la section musique, et donc il y a aussi là près de nous, au moment où on fait ces enregistrements, il y a deux guitares. Alors est-ce que vous voudriez nous en dire un mot, et je crois qu'elles ont une utilité particulière à la vie
spécifique. Si j'ose dire. Il y a la maman à gauche, la Larry Carlton, et puis à droite c'est la Vox, c'est le Pouty. Voilà, parce que la Larry Carlton c'est une très bonne guitare. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs usagers qui ont tâté déjà, qui ont ouvert de grands yeux en la voyant parce qu'ils la connaissaient. Et c'est ce type d'instrument qui me font dire que pour un prix modique, on peut avoir une bête de course.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Son seul inconvénient à mes yeux, alors moi je ne suis pas guitariste, mais enfin voilà, j'ai des instruments qui me sont passés dans les mains. Elle a un poids, un tout petit poil trop important par rapport à des guitares de même catégorie. Et c'est un peu ce qui nous a fait aussi acquérir sa copine beaucoup plus petite à côté d'elle, plus spécifiquement destinée aux enfants, avec un chouette look de guitare SG. Parce que les enfants sont très attirés par les guitares. Et donc, celles-ci, ils peuvent s'en servir sans danger d'être entraînés par le poids de l'instrument en bas du tabouret.
Et puis je pense que là, l'intérêt de mettre des instruments dans un espace où on diffuse de la musique, où la musique est présente aussi dans toutes les œuvres audiovisuelles qu'on pourrait proposer, c'est vraiment aussi que les gens puissent se dire « Ah bah tiens, j'ai toujours voulu en jouer » ou « Ah, je me suis interdit » et puis là, il se trouve qu'elle donne envie, elle est juste là, elle attend juste la possibilité d'être jouée. Et on peut jouer de la musique à la bibliothèque à partir du moment où la bibliothèque est ouverte au public. Donc voilà, s'il y a beaucoup de demandes, on fait attention, on dépasse pas une heure, mais s'il y a personne, on peut très bien aussi passer un moment pour découvrir un instrument sans avoir à payer. Donc on peut avoir une expérience musicale, retrouver l'envie qu'on a eue ou qu'on a peut-être perdue.
On va vérifier qu'elle est accordée.
Pour les parents, ça a aussi valeur de test, parce que si vous avez quand même énormément il y a des millions de gens qui jouent du piano et de la guitare en France, mais il n'y a pas des millions d'entrées dans les écoles. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que si on n'a pas sa place au conservatoire, ou si on trouve que les cours sont trop chers ou quoi que ce soit, ou même si on n'a pas le temps, parce que c'est aussi une question de temps de faire de la musique, on peut aussi se laisser tenter sans forcément passer par le tiroir caisse de la consommation. Et c'est là où la bibliothèque a aussi un intérêt, c'est-à-dire que elle permet de tester, d'essayer, et après de laisser la liberté aux gens de décider ce qu'ils ont envie de faire. Et le fait de prêter aussi des instruments, c'est aussi la possibilité à un moment donné de pouvoir passer d'une guitare à un clavier, à une percu, juste avec le côté démocratique d'attendre que ce soit son tour. Donc ça, c'est quand même super, super chouette de se dire qu'on peut essayer plein d'instruments. Là, actuellement, on a 28 en prêt. Et donc là, on a Edouard de Campus qui nous fait un beau ré.
Il va nous faire une impro sur la fameuse Carlos Santana Secret Chord Progression.
Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut jouer, on joue au casque évidemment, parce qu'on n'a pas de studio, on n'a pas de salle qui serait insonorisée, où hélas nos usagers pourraient venir et jouer ensemble. Ça, c'est un peu notre grand rêve. On aimerait bien qu'il y ait un espace insonorisé où on pourrait mettre batterie, basse, guitare, piano, instruments délirants.
Sousaphone.
Ouais, de quoi s'enregistrer, et puis laisser les gens tester, jamais aussi. Parce que ça, c'est un truc hyper important. Tu découvres quelqu'un, tu te rencontres, tu parles. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort et de très chouette actuellement. Les gens se parlent autour des instruments de musique. Tiens, t'as essayé ça, tu joues quoi, ah ouais, tiens, moi j'ai fait ça, j'ai bossé comme ça, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges de nos usagers. On voit aussi des gens qu'on n'aurait peut-être pas vus de tous les âges. Donc ça, ça a changé aussi, je trouve, la manière d'accueillir le public dans un espace public, je trouve. L'ampli qui sort ce son, c'est un ampli Vox. Alors c'est un ampli numérique, ce qui induit que vous pouvez choisir en fait la qualité de l'ampli que vous voulez essayer. Donc c'est assez chouette. Vous avez des amplis un peu Fender. On va citer des marques, on devrait peut-être pas, mais voilà, vous avez des amplis numériques, le Deluxe, vous avez vous devez avoir le Blues Junior, etc. Vous avez aussi les amplis Vox, donc la C15 et la C30, qui sont assez mythiques, notamment parce que Pinstonhead, mais aussi Radiohead jouent sur des Vox. Qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez des amplis américains, d'autres anglais, donc c'est assez chouette. Et puis vous avez différentes couleurs, vous pouvez les régler différemment, des sons clairs à des sons plus crunch, et puis des sons aussi avec des amplis où vous pouvez faire du métal. Donc c'est un ampli très polyvalent, très sympa, et puis il n'y a pas de risque que les lampes soient abîmées.
Voilà, et si on fait du métal, on peut prendre la relève de Sepultura dont la...
Ouais.
Voilà, la fin programmée a été annoncée.
Pour 2024, voilà, une grande tournée mondiale, notamment un passage à Paris. Et oui, 40 ans de musique. Et je trouve qu'ils ont aussi ce qu'ils expliquaient aussi, et qui est très, très beau, c'est la liberté aussi de mettre une fin, de choisir sa fin. Et
D'ailleurs, leur dernier concert sera à l'auditorium de la bibliothèque. Non, j'ai rien dit, c'est pas vrai, arrêtez, coupez ça.
Ce serait beau, ce serait magnifique.
Ah, alors là, je peux te dire, là... Ouais. Non, mais on mettrait du monde dans les escaliers.
Ouais. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour essayer des instruments quand vous en avez envie, et puis même sur les moments où vous pouvez aussi avoir un peu de temps libre pour venir essayer et puis vous détendre également. Très important.
Voilà.
Eh bien, merci à vous tous. Merci à Campus. Puis à bientôt dans les bibliothèques de Tours.
Merci à nos bibliothécaires de l'extrême de nous proposer toujours des chroniques passionnantes pour découvrir les richesses qui sont empruntables dans les différentes bibliothèques de la ville de Tours. Il me reste, auditeurs, auditrices, à vous souhaiter la meilleure des journées possibles, à l'écoute évidemment de Radio Campus Tours. Et cette émission est à retrouver sur notre site radiocampustours.com dans la page de la Méridienne.